Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Zéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène en Chine et je t'emmène en vélo, donc dans les nouveaux styles de voyage qu'on aime bien, parce qu'il y a un moment il faut quand même faire gaffe un peu à la planète. Et donc on va traverser la Chine à vélo avec Victor Abchi. Victor, comment ça va ?
Écoute, ça va très bien et toi ?
Écoute, je suis très content de te recevoir sur ce podcast parce que pour la petite anecdote, internaute, si tu ne connais pas Victor Abchi et son travail, c'est un très grand photographe. C'est celui notamment qui a buzzé il y a quelques années sur Facebook avec ses photos du Burning Man qui avait complètement en fait envoûté tout le monde et surtout qui avait fait découvrir le Burning Man à pas mal de Français parce que personne savait vraiment ce que c'était. Et t'es un peu responsable, je pense aussi, de la foule de Français qui y est allée derrière et de cette mode aussi de le photographier parce que c'est tellement photogénique. Mais... C'est juste pour être sensibilisé sur la personne qu'on a en face de nous. C'est pas n'importe quel créateur. D'ailleurs, en ce moment, il est en train de tout tuer sur TikTok avec aussi des storytelling, mais on va y revenir. En tout cas, là, pour l'instant, on va attaquer sur ton voyage en Chine à vélo. J'aime bien commencer par une question toute simple. Pourquoi la Chine et pourquoi à vélo? Qu'est-ce qui a motivé cet ADN, ce concept de voyage-là en toi?
Alors, la Chine, c'est parce que j'avais passé pas mal de temps en Asie. Moi, j'avais vécu à Bangkok. J'avais fait un échange là-bas.
Ouais.
Et... j'adorais la Chine. En fait, j'adorais Chinatown à Bangkok parce que c'était excitant et en même temps, ça me faisait peur.
Ah ouais ?
Ce petit mélange. Ben, ouais,
genre, je vais finir dans un M, tu sais, genre...
Non, pas exactement. En fait, la Chine, ça reste un pays qui est vachement moins accessible que l'Asie du Sud-Est parce qu'il faut faire un visa, parce que t'as la police, parce que c'est un État qui est quand même assez autoritaire. Et du coup, moi, j'avais ce truc de me dire c'est excitant et en même temps, c'est pas forcément de l'appréhension, mais tu vois, une petite peur quelque part qui me disait je sais que si je vais là-bas, je vais pouvoir me dépasser.
Ah, et du coup c'était la Chine parce qu'il y avait cette partie d'inconnu en fait, ce côté un peu tu sais mystérieux de on a le droit dans les endroits et dans d'autres c'est peut-être un petit peu compliqué, il y avait ça aussi, ce côté mystérieux.
C'est ça, moi j'adorais l'Asie et je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu qui sortait un peu de ce que je connaissais, tu vois. Petit peu exotique, un petit peu différent quoi.
Et pourquoi le vélo?
En fait le vélo, j'avais commencé par faire Paris-Istanbul à vélo.
Ouais.
Et ça avait été une...
Ah ouais.
Putain de kiff, c'était incroyable. Bah, c'était génial, j'ai découvert l'Europe d'une manière exceptionnelle, j'ai vraiment rencontré plein de gens, et quand j'ai fait ce voyage, ça m'a vraiment débloqué un truc, en mode,
ah ouais,
il y a moyen de voyager différemment, il y a moyen de faire un voyage lent, sans passer par des trains, sans des bus, et vraiment partir vivre, tu vois, dans la campagne en fait.
C'est marrant parce que, tu sais, quand tu voyages souvent, ceux qui font des longs voyages en vélo, des fois en fait... Ils ont kiffé, mais ils en ont eu tellement marre parce qu'ils ont eu tellement mal aux fesses et ils ont tellement traversé des moments difficiles qu'ils se disent le prochain je le ferai pas à vélo. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est que toi en fait tu dis franchement je vois pas le côté pratique, je vois le côté dépassement et une autre vision du voyage qui en fait a donné envie de le refaire.
Bah, en fait je me suis aussi dit tous les jours si j'en ai marre j'arrête, donc j'avais pas d'obligation.
Ouais.
C'était vraiment pour moi, il faut que j'ai du plaisir au quotidien sinon ça n'a plus de sens.
Je vois.
Et le truc, c'est que moi j'y connais rien en vélo et quand je suis parti en Europe je savais pas changer une roue, je me suis juste dit c'est marrant, on va voir. Et, et quand je suis arrivé en Chine j'avais pas de vélo, donc j'ai acheté un vélo à 20 balles, tu vois.
Un vélo à 20 balles?
Ouais, un truc d'occasion.
Ah,
enfin, le mec il était éclaté.
C'est-à-dire que t'as gardé le même vélo tout le long?
J'ai gardé jusqu'à Singapour, et à Singapour il était complètement détruit, donc j'en ai pris un autre.
Alors justement, on va arriver dans la partie pratique, parce que ce que j'aime aussi c'est qu'on inspire les gens, qu'on leur donne des idées ou qu'on, surtout peut-être qu'on déclenche une envie de faire quelque chose. Mais pour ça, il faut le rendre aussi très pragmatique pour qu'ils, concrètement, dans leur tête, ils disent « Ok, je dois faire ça, ça et ça. » Donc, concrètement, si on veut traverser la Chine en vélo, déjà, c'était de où à où que tu as fait comme itinéraire?
Alors, j'ai commencé à Chengdu, donc dans Sichuan.
Ouais, tout au sud, ouais.
Ouais, c'est plutôt vers le sud. Et j'ai roulé, mais en fait, j'ai roulé jusqu'à Bali.
Quoi? T'as roulé jusqu'à Malico? Alors, je pense que les gens sont pas au courant, mais il y a un océan, donc t'as peut-être pris le bateau à un moment donné ou l'avion.
Entre Singapour et l'île de Java, faut prendre un bateau.
Ah, donc t'as quand même. Ah oui, t'as pas fait que la Chine, t'as vraiment été jusqu'à Bali. Et alors, à ce moment-là, quand t'as décidé de faire d'attaquer par la Chine, ça a été quoi la préparation? Comme tu dis, il faut un visa, mais un visa, c'est un visa d'un mois normalement pour la Chine. Comment ça a été préparé pragmatiquement pour un mec qui veut se lancer dans cette aventure?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime pas trop préparer parce que j'ai une sorte de confiance un peu folle dans les choses. Un truc important, c'est effectivement, il faut un visa. Donc, moi, je suis passé par une agence de tourisme qui prend une petite commission de 50 euros et en échange, ils s'occupent de toute la paperasse. Donc, c'est pratique, ça t'évite de devoir passer par beaucoup de papiers qui sont relous.
Et te déplacer à
Mais
l'ambassade, normalement ils le font pour toi, ils prennent ton
ouais,
passeport, donc
exactement.
finalement tu gagnes du temps en fait, tu t'offres
Ouais.
du temps.
C'est de l'argent que je trouve bien investi. Mais après, en fait, j'ai vraiment pris un billet au pif. En fait, j'ai dit, il y a quoi qui est pas cher? J'ai regardé les pays, enfin les villes. Chengdu, il y avait un billet pas cher. J'ai fait, allez, go. Et on verra à partir de là ce qui se passe.
Ah ouais, alors attends, t'arrives à Chengdu, tu dis
Mais
ok,
c'est pas.
il faut que j'achète un vélo. Tu
C'est ça.
voulais faire un vélo quand même, ça tu savais.
Ouais, c'est clair.
Alors comment tu fais quand t'es à Chengdu et que tu dis je veux un vélo? Tu te renseignes sur les marchés des vélos volés, dans les auberges tu demandes s'il y a des mecs qui vendent des vélos, comment ça se passe?
Après, j'avais pas mal voyagé déjà, donc je sais que quand t'as un peu d'argent, tout est possible. Tu vois, genre un vélo pas cher d'occasion, ça se trouve. Et en fait, tout simplement, j'ai contacté des gens sur Couchsurfing, donc des locaux
Ah ouais,
qui
ok.
font partie de la communauté. Et là, ça a été hyper simple. En fait, c'est mon couchsurfer qui m'a dit, bah ouais, moi, si tu veux, j'ai un vélo, je te file pour pas grand-chose, voilà quoi, il fait le taf. Donc c'était vraiment un vélo simple, donc rien de très
Donc t'avais
compliqué.
pris, me dis pas que t'as pris un VTT, genre le VTT de base pour faire ça, c'est ça? Non.
C'était un mountain bike, ce
Ouais, c'est
qui.
ça, c'est un VTT, c'est.
Ouais, peut-être en fait.
Ah c'est ça, un mountain bike, c'est un VTT, c'est pas un vélo de route, hein. C'est pas les
Ouais.
Between de Decathlon qui font un peu les deux. C'était vraiment très gros pneus et tout.
Ouais, c'était lourd, c'était assez lourd.
Voilà. Et attends, du coup, si je comprends bien, t'as cherché, tu peux pas vraiment mettre de sacoche sur ce genre de vélo. T'es parti avec un
Si, si,
sac.
parce que.
Ah quand même.
Non, derrière, t'as quand même un rack. Ah, ça, c'est un truc important, parce que j'avais fait un vélo en Europe. J'avais acheté des sacoches de vélo.
Ouais.
Parce que sinon tu transpires du dos, ça c'est vraiment, ça coûte que dalle et c'est vraiment pratique.
Ouais, prendre des sacoches. Du coup, t'avais pas de sac à dos du tout, tout était dans tes sacoches.
En gros, j'avais un petit sac Quechua que je mettais derrière, à côté de mes sacoches, mais je portais
Ouais.
pas sur moi, quoi.
Ouais, je vois. Et du coup, t'avais quoi? Qu'est-ce qu'on met dans ces sacoches pour partir traverser la Chine?
Alors moi, je suis parti en mode très minimaliste, donc
Ok.
j'avais vraiment pas grand-chose, en partant du principe que je sais que si j'ai besoin de trucs, je peux acheter sur place.
Ok.
Donc l'idée c'était vraiment full léger et en plus je suis parti en septembre et je roulais vers le sud. Donc a priori j'allais rester plutôt vers des saisons d'été.
Ok, donc plutôt des vêtements légers. Donc non, mais ça veut dire
Ouais.
quoi? En fait, minimaliste, c'est un concept qui pour ça dépend des gens en fait. C'est comme ça, c'est beau, tu vois. C'est très personnel. Tu vois, c'est très personnel. Qu'est-ce que tu mettais dedans?
Concrètement, j'avais 5 caleçons, je crois que j'avais 5 t-shirts, j'avais 2 shorts. Après, j'avais un pull, un pantalon et je pense que c'est à peu près tout. Non, j'avais aussi un petit paravent, tu vois, pour contre la pluie.
Ah bah ça va, ça. Je pensais que t'allais me sortir deux caleçons, deux t-shirts. Déjà, c'est un peu plus fourni.
Ouais. Bah après.
Ouais, t'avais une tente? T'avais pris une
Non.
tente au cas où? Ah, donc tu dormais à chaque fois dans les auberges. Bah non.
C'est ça.
Si, à chaque fois, ok.
Dans les auberges ou chez les gens. L'idée étant d'aller au maximum chez les gens.
Ah, et putain, ça veut dire qu'en Chine, tu t'es chauffé pour aller chez les gens. Avec
Ouais.
peut-être, t'avais un niveau de chinois qui était proche de ta préparation ou. C'était.
Exactement, je
Ok.
connais mes quatre mots.
Et du coup, t'avais acheté une. Est-ce que du coup, tu l'as joué comment? Tu l'as joué genre signaux, Google Translate avec. T'as acheté une puce locale? Comment c'est passé?
Ça. J'avais une puce 4G et Google Translate marche très bien pour des communications basiques où en gros tu demandes aux gens est-ce que je peux dormir chez vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et on arrivait à avoir des conversations assez correctes, je dirais.
Et tu vois, c'est ça que j'adore. C'est-à-dire que les Chinois. Ont malheureusement souvent une mauvaise réputation en France parce que ben la plupart des Français qui voient des Chinois, c'est les touristes qui viennent, ils viennent en car, ils viennent parce qu'en plus ils sont en mode c'est nos 3 jours de congé de l'année donc vas-y, tu vois, on se laisse un peu aller. Et du coup, il n'y a pas forcément une bonne image. Et les gens qui sont allés en Chine savent que quand tu alpagues un Chinois ou une Chinoise dans la rue, ils sont absolument très gentils, courtois et super bienveillants. Comment ça a été justement tes process pour arriver à te faire accueillir chez les gens en Chine? T'étais là, donc là je remets un peu en situation. Donc le mec est sur son VTT avec ses deux sacoches, T'es en plein Sichuan et ok, faut dormir quelque part. C'était quoi les process, les tactiques?
Alors, en fait, ce qui était marrant, c'est que dès que j'ai commencé à rouler vers le sud, donc en direction du Yunnan, je suis vraiment passé par des zones où il n'y avait aucun touriste. Ça veut dire que dans beaucoup de villages, en fait, les gens me voyaient comme un alien. Un alien, moi je dirais plutôt une star, tu vois, parce que vraiment, des stars, je sortais, et tu sais, je voyais les gens qui se retournaient dans mon passage, qui chuchotaient, genre, ah, t'as vu un Européen et tout, qui me prenaient en photo discrètement. Et c'était vraiment un sentiment incroyable que j'ai vécu nulle part ailleurs de...
D'être une star.
Mais tu vois, en fait, c'est avec beaucoup de curiosité et de bienveillance.
Bien sûr. Donc,
c'est pas énervant. C'est vraiment, les gens sont extrêmement polis. Ça m'a un peu rappelé le Japon. Tu vois, où il y a cette forme de politesse et de respect des distances.
Et
donc,
tu vois, je trouve ça génial parce que on l'a bien, cette notion, comme tu dis, de courtoisie, de bienveillance de la part des Japonais qui sont très connus pour ça. Et c'est pas pour rien. Mais les Chinois, du coup, n'ont pas cette réputation. Et pourtant, comme tu le dis, sur place, c'est très présent en fait.
Ouais. Après, ça dépend, je pense, beaucoup des villes et des villages.
Bien sûr.
Et aussi des régions. Parce que vu que c'est très grand, ils ont tous des cultures un peu différentes, etc.
Et ça ne me répond pas à ma question de « tu descends vers le sud, t'es en vélo, comment tu fais pour dormir chez les gens ?» Parce que entre le moment où justement les gens… Parce que souvent, il y a de la curiosité, mais la curiosité des fois, c'est intimidant en fait. Comment t'as fait pour briser ça et à chaque fois peut-être trouver des façons de te faire héberger et de rentrer en contact avec les gens ?
Alors franchement, c'était assez simple. Déjà, les gens passaient leur temps à me payer la bouffe, mais c'est un truc de ouf.
Mais non.
C'est-à-dire, il y a un soir où les gens voulaient tellement me payer de la bouffe que j'ai fait 2 repas de suite.
C'est bon ça. Mais en fait,
ouais.
Encore une fois, tu donnes le résultat, mais tu ne dis pas comment ça se passait.
Vraiment, en fait, c'est assez simple. Tu essaies de discuter aux gens. Souvent, c'est eux qui viennent te voir. Donc déjà, ils brisent la glace. Tu leur poses un peu de questions et en fait, c'est assez fluide. Donc, c'était vraiment pas un problème. Je dirais que le problème, en fait, c'est qu'il y avait des soirs où j'étais fatigué et du coup, j'avais juste envie d'être seul.
Ouais,
mais
bien sûr.
Encore un avantage, en Chine, même dans le moindre village, ils ont tous des hôtels qui sont d'ailleurs exactement les mêmes. Donc, c'est même déco, même design, etc., même prix. Et du coup, c'était hyper simple de trouver un endroit pour dormir. Et en général, c'était autour de 5 € la nuit. Donc, pas de problème, quoi.
Ah, ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que tous les hôtels sont autorisés. Tu vois, moi, quand j'y avais été, il y a une dizaine d'années, tous les hôtels n'étaient pas autorisés à pouvoir recevoir aussi les étrangers et que c'était un peu compliqué pour eux, tu vois. Et je pense que bah, maintenant, apparemment, tu me dis qu'en fait, il y a un Formule 1 partout dans chaque...
c'est même pas des Formule 1 parce que c'est
non, mais
des...
c'est un modèle. Ah, ok, d'accord.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, apparemment, c'est illégal encore quand j'y étais. En fait, dans les villages, en fait, ils s'en battent les couilles.
Ah, d'accord, ok. Okay.
Entre la règle et ce qu'ils font, en fait, ils s'en foutent. Et t'es là, ils se font « Ah, c'est marrant, un étranger... » Par contre, petit disclaimer, ça m'est arrivé très 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 souvent qu'ils m'acceptent et en fait après ils contactent la police parce qu'ils ont un peu peur. Et plein de fois, je me suis fait réveiller au milieu de la nuit par des flics qui voulaient savoir ce que je foutais en plein milieu de la Chine à vélo.
Non, et les mecs déboulaient dans la chambre en pleine nuit et tout. Oh putain.
Moi j'étais en slip et tout. Après en fait, je me suis habitué, mais au début, c'est vrai que ça fait un peu bizarre.
Donc en fait, et les mecs te disent "Viens, je prends ta thune", mais après en gros, je te balance.
Ouais, après je peux comprendre parce que c'est
bien
un
sûr.
Truc, je pense que c'est un peu de la méfiance, donc ils avaient peur de faire un truc illégal.
Mm-hmm.
Donc par principe, ils appelaient les flics par principe ils venaient. Et tu vois, tout le monde faisait des trucs par principe en fait.
Et du coup, quand tu t'expliquais que t'étais en train de voyager, et ils te croyaient, parce que si t'es un espion, comment tu fais pour dire que t'es pas un espion?
Alors au début, j'étais vraiment un ovni, donc j'ai passé pas mal d'heures au commissariat à essayer d'expliquer ce que j'étais en train de faire.
Ok.
Ce qui m'a sauvé, c'est que je pense que j'avais l'air plutôt sympa et plutôt rigolo. J'ai montré des photos, j'ai montré mon travail de photographe.
Ah, cool, ouais.
Et aussi mon passeport fagot, tu vois, un français, c'est cool.
Français, ça passe bien ?
Ça passe très très bien.
Ouais, ça se l'air de rien. Ouais, américain, je pense déjà, c'est un peu plus compliqué en Chine, peut-être.
Ouais, et puis tu sais, eux, ils ont plutôt... je pense que leur vraie peur, c'était par rapport à la communauté Ouïghour, qui est pas mal opprimée actuellement d'ailleurs en Chine.
Ah, et qu'il y ait des reportages sur eux, c'est ça ?
Ouais, voilà, ils se disent que je suis quelqu'un qui vient pour parler de ça. Et aussi, ils ont un peu peur des attentats. Il y a eu un attentat par des extrémistes qui n'ont aucun rapport avec la communauté, mais qui a eu lieu à Kunming, la capitale du Yunnan.
Ouais,
et du
ouais.
coup, ils sont un petit peu méfiants par rapport à ça. Mais dès que tu vois que t'es un mec un peu un ovni, mais qui est vraiment bienveillant, ils sont cool.
Ouais, dès que tu montres que t'es un peu du père, en fait, que t'es un peu à l'ouest et que t'es dans ton trip à vélo, Il dit, oh, ouais, laisse tomber, lui, là, il est à l'ouest, laisse tomber, il fait son truc. Vas-y, va pédaler.
Donc... C'est ça, en fait, si je suis bizarre mais inoffensif, ils s'en foutent.
Ok, donc c'est bon à savoir comme critère pour passer dans les mailles de la police. C'est un peu bizarre, un peu perché dans ton délire, et tu connais pas trop où t'es, tu fais un peu le mec perdu, tu fais pas trop le mec déterminé, et potentiellement, il t'embête pas plus qu'une heure dans la nuit.
C'est ça, après tu vois, c'est resté des policiers assez mignons, tu vois, parce qu'ils étaient autoritaires, mais en même temps, ils voulaient pas trop me déranger, ils avaient un peu peur.
Je vois. T'sais,
c'était archi timide, il voulait pas me parler en anglais parce qu'il parlait pas trop, tu vois. Et du coup, des fois, j'allais dans les commissariats et tout le monde était en mode non, toi tu vas lui parler, non, toi tu vas lui parler, tu vois. C'était vraiment.
Ouais, c'est genre, vas-y, qui c'est qui se dévoue pour aller parler de trois mots anglais avec le fameux.
Ouais, c'est ça. Du coup, je me sentais pas en danger, je me sentais pas menacé en fait.
Bien sûr, ouais.
Donc, pour moi, c'était un peu un jeu. Et il y a aussi un truc, c'est que vu que je faisais quand même une ligne direction du sud, je pense qu'en fait, il se passait l'info au commissariat. Tu vois, c'était à peu près 80 km par.
Il y a un mec qui arrive, bon.
Ouais.
On va le réveiller, quoi. On va l'emmerder un peu, faut rigoler un peu.
Non, au contraire, c'est plutôt il y a un mec chelou qui va arriver, t'inquiète pas, on l'a vu, c'est un français. A priori, ça va bien.
Ah, et tu veux dire que de plus en plus, au fur et à mesure du chemin, finalement, on te laissait de plus en plus tranquille.
Ça.
Ah, ok. Ah, bah finalement, mais ok, donc super positif. Super positif.
Ouais, ouais, ouais. Et que c'est pas grand chose vraiment de se faire arrêter un peu par les flics par rapport à tout le bonheur, toutes les rencontres et tout cet émerveillement que j'ai eu au quotidien. Ouais, moi, je conseille ce genre de trip, quoi.
Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et je reviens vraiment sur le côté factuel, pragmatique. Y a des gens qui disent, ok, t'es dans la rue, t'es avec ton vélo, t'as tapé la conversation avec un mec qui t'a, ok, payé un peu à manger. Mais comment tu passes le pas de, y a un mec que t'as rencontré qui, voilà, qui est curieux, qui vient te voir et que il t'invite à aller chez lui. Comment ça se passe en fait dans les faits?
Souvent, ça prend un peu de temps. Tu discutes un peu, comprends ce qu'ils font dans la vie, t'expliques d'où tu viens et ce que tu fais. Et en fait, tu crées une forme d'intimité qui fait que la personne est suffisamment connectée à toi pour t'offrir quelque chose de plus qu'un simple repas.
Ça veut dire que c'était toujours les gens qui te proposaient ou c'était toi aussi qui demandais peut-être par hasard si c'était possible?
Un peu alors souvent, ouais, souvent on me proposait, mais une fois c'était marrant. En fait, je pensais que j'étais dans un hôtel et la personne a dit oui tellement rapidement que je me suis dit bah c'est un hôtel et en fait pas du tout, c'était des gens quoi.
Ah ouais, c'est le mec qui te dit ouais, bien sûr, vas-y, tu peux te mettre là, ouais. Vas-y, tu prends la chambre, elle est dispo.
C'est exactement ça, et au bout d'un moment j'ai réalisé qu'en fait j'étais vraiment chez des gens et que c'était pas un hôtel quoi.
C'est... Ah ouais.
Dire que...
Est-ce que t'as fait des erreurs dans ce voyage? J'aime bien aussi se dire, parce que là on a le côté genre tout va bien, tout est fluide. Est-ce qu'il y a des erreurs que t'as fait qui t'ont finalement appris des belles leçons?
Alors j'ai fait une erreur qui était un peu stupide, c'est que j'ai laissé mon passeport dans la poche extérieure de mon sac quechua. Ce qui fait que mon passeport a été complètement déglingué.
Ah.
Et j'ai eu peur de ne pas pouvoir avoir un visa à cause de ça.
Ah ouais, c'est-à-dire que tu ne t'es même pas fait faucher, mais que, parce que souvent quand la poche extérieure, c'est un peu le mec de province qui vient sur Paris et qui met son téléphone dans la poche arrière du sac à dos. Évitez les mecs, hein, si vous venez sur Paris, et même dans n'importe quelle grande ville. Mais effectivement, ouais, il a raison Victor, quand un passeport... C'est con, c'est encore papier, on se demande pourquoi c'est encore papier, parce que de toute façon bientôt ils vont nous foutre une puce dans la peau, on n'est pas loin. Mais du coup, en attendant un futur proche qui va bientôt arriver, très futuriste, mais si c'est du papier, si le papier n'est pas en bon état, ou qu'il y a une feuille, juste une feuille qui est déchirée de ton passeport, ils peuvent te dire tu rentres en France. Donc mettez ça bien dans un sac de congélation, souvent, si vous n'avez pas des drive-by un peu techniques, si vous n'êtes pas des randonneurs, sac de congélation étanche. Pour être tranquille, parce que t'as eu du bol, effectivement. Ça peut vraiment être problématique. Et est-ce qu'il y a d'autres erreurs qui t'ont appris, pour le coup, peut-être des leçons, hein, peut-être un peu plus humaines? Où tu t'es dit, là, ouais, j'étais trop loin, ou j'ai fait telle erreur, ou j'aurais pas dû aller dans tel endroit, j'en sais rien. Ou pas, hein, je suis pas là pour que ton aventure soit un drame.
Bah, après, une autre erreur que j'ai fait, c'est parfois j'ai un peu trop roulé, donc j'étais un peu fatigué, et du coup, de cette fatigue, en fait, j'envoyais quelque chose de plus négatif aux gens.
Ah,
parce que
j'étais
plus blasé. Et du coup, de là, en fait, vraiment, je me suis rendu compte que tu crées ton environnement.
C'est-à-dire,
si t'es fatigué et que tu renvoies une énergie très négative, les gens te renvoient un petit peu la même chose. Et du coup, tu te mets dans un cercle vicieux qui fait que plus rien ne va, quoi. Parce que putain, ils vont être chiants. Du coup, ils sont chiants. Ils te voient chiants, donc ils sont encore plus chiants. Et c'est un truc assez, assez compliqué, des fois.
Et du coup, non, mais ce qui est beau, c'est que tu es en train de dire que l'inverse est vrai, en fait.
Exactement, c'est ça qui est merveilleux. Si tu commences à être marrant, souriant, curieux, ouvert et tolérant, je pense que vraiment, moi, j'étais dans un mood de bisounours, faut le dire, tu vois. Mais j'étais vraiment dans le monde où, enfin, tu vois, dans tout ce voyage, j'ai pas eu un souci.
Ça, c'est bon à savoir. Donc, tu vois, c'est pareil, tu vois, on a peur de la Chine parce que, bah, effectivement, le gouvernement, il fait un peu peur, ils font des trucs pas très légaux, ils font des trucs un peu flippants. Évidemment, avec les étrangers, c'est plutôt la curiosité, c'est plutôt genre, bon, on contrôle que tu fais pas n'importe quoi, mais finalement, on te laisse tranquille. Et c'est un pays qui est vraiment à découvrir parce que la plupart des gens le découvrent en train, donc grande ville, et qu'en vélo, ça doit être fou. Qu'est-ce que t'as vu quand même? Tu vois, viens, viens, les gens, ils sont là, ils ont les écouteurs, mais s'ils mettaient un casque de réalité virtuelle sur les yeux, qu'est-ce qu'ils verraient? Qu'est-ce que t'as traversé comme décor? Fais-nous rêver.
Bah, j'ai traversé des régions montagneuses incroyables où tu étais vraiment au-dessus des nuages, où tu étais à 1700 mètres d'altitude et t'avais plus d'habitation, t'avais que la nature et t'avais ces. Je sais pas, c'était vraiment surréel, quoi. Je me sentais dans un autre univers. Tu vois, j'étais quand même au milieu de la Chine, tout seul, à parcourir des kilomètres, sans aucun étranger, des fois sans personne, en fait. Tu vois, juste la beauté de la nature et le calme et la paix, quoi.
Et à part les. T'as fait. Parce que t'es parti du Sichuan. Mais c'était. Donc, ouais,
Ouais.
du coup, toute la Chine du Sud, c'est quand même assez montagneux. C'était quoi? C'était.
Hyper montagneux.
Ah, du coup, t'as dû douiller quand même, ça veut dire.
Ouais, de fou. Franchement, physiquement, la Chine, c'était vraiment dur. Jusqu'au Laos, ça a été dur physiquement parce que tu avais des montées à 15%, des trucs vraiment
Ah.
avec sa sacoche. C'était chaud, quoi. Ouais.
Rassure-moi, tu descendais des fois, ou tu vraiment, t'as fait que à vélo, en mode
J'essayais de
moulinette.
pédaler au max, mais en fait, il y a des jours, j'en pouvais plus. Donc, j'étais là à pousser mon vélo. Mais ce qui était bien, c'est que j'avais des objectifs. Tu vois, je roulais vers le sud et je savais que dans 3 jours, j'avais un couchsurfer ou je tombais dans une ville. Donc j'avais toujours la motivation d'avancer.
Mais alors comment ça se passe? C'est-à-dire que tu disais que des fois tu étais perdu en pleine montagne, mais est-ce que des fois tu croisais pas des villages? Comment tu faisais un pour te loger et pour manger si t'avais pas de tente et de réchaud et tout ça?
Alors j'étais perdu. Disons que j'étais dans un endroit où il n'y avait personne, mais c'était des routes. Tu sais, en montagne, en fait, t'as pas 10 000 routes.
Ouais, t'en
Donc
as une.
t'avances tout droit et a priori t'avances tout droit vers le sud donc ça passe. En fait la Chine il y a beaucoup de nature mais c'est aussi assez peuplé et du coup je dirais que t'as des villages tous les 15 km
Ok,
max.
ok. Donc
Donc
tu fais un kiff de 2 heures perdues, mais potentiellement au bout de 2 heures, t'es.
ouais. Après j'ai eu des douilles où je me dis ouais j'ai roulé un peu, j'arrive, il fait nuit, je suis au milieu de nulle part et comme ça m'est arrivé de dormir dans une gare de. C'était quoi? C'était une gare de bus, de camion. Où genre j'ai dormi, tu sais, sur les banquettes.
Ouais.
Genre, je me réveille en plein milieu dans un petit sac de couchage. Il y a des gens qui me prennent en photo, tu vois. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, quoi? Qu'est-ce que je fous là? J'ai eu quelques douilles comme ça, quand même.
Est-ce que justement, tu vois, c'est. Je pense que ce genre de voyage à vélo, ça te pousse vraiment dans tes retranchements parce que, un, tu peux être très seul, et deux, ça te pousse dans tes limites physiques, surtout quand tu t'engages dans ce genre d'aventure physique auquel tu n'es pas habitué. Tu vois, un cycliste, ok, mais là, t'étais vraiment genre, tu sais quoi, je prends un vélo, puis je vais monter une montagne. Comment ça se passe psychologiquement? T'as vécu quoi comme tu vois,
Ouais.
différents moments, peut-être bons ou durs ou compliqués. Enfin, tu vois, j'imagine qu'il y a des différentes phases.
Ça, c'est hyper intéressant. Alors, déjà, par rapport à la solitude, c'est marrant parce que j'en parlais à un couchsurfer polonais qui habitait dans une ville de Chine. Où il me disait, tu vas voir, en fait, quand tu vas quitter la Chine, c'est là où tu vas te sentir seul. Et
Pourquoi?
c'est vrai que j'ai vraiment ressenti ça parce qu'en fait, quand tu quittes la Chine, tu arrives dans l'Asie du Sud-Est, qui est une zone très touristique et qui fait que le rapport que les gens ont avec toi est complètement différent.
Et du coup, finalement, la solitude, tu l'as pas eu en Chine?
Non, en Chine, je me sentais très bien entouré et malgré la difficulté parfois de communiquer, en fait, t'avais tellement un rapport avec les gens qui étaient sincères et qui étaient beaux, qui faisaient que au quotidien, j'étais vraiment comblé là-dessus. Je me sentais pas seul. Au contraire, des fois, comme je t'ai dit, j'étais plutôt en mode,
Mode, ouais,
c'est moi
fatigué.
tranquille, chez ma life, quoi.
Ouais.
Donc vraiment, la solitude, j'ai pas trop ressenti en Chine, un peu plus en Asie du Sud-Est, mais du coup, j'ai un peu changé mon trip par rapport à ça.
Parce que tu voulais juste. En fait, tu venais d'arriver de sortir d'un pays où tu avais un rapport ultra humain et dénué un peu de relations commerciales. Tu vois, c'est un peu ça. Et tu arrives dans une région où l'étranger est vu un peu plus comme bah voilà, un potentiel manne financière. Et du coup, t'avais un peu plus ce genre d'échange. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, t'as dévié des routes principales, t'as été dans les campagnes, qu'est-ce que t'as fait?
Ouais, c'est ce que j'ai fait au max en fait. Je me suis dit, bah, faut que je sorte. J'ai regardé les zones touristiques en Thaïlande par exemple, parce qu'à Thaïlande c'est quand même assez touristique.
Ouais.
Et je me suis dit, bah, je vais éviter au max ces zones parce que finalement c'est là où les gens sont pas forcément moins sympas, mais c'est aussi qu'ils sont plus habitués aux
Bien
touristes, donc
sûr.
ils ont moins d'intérêt à venir te voir, à échanger avec toi. Et c'est aussi des cultures qui sont un peu différentes. Mais ce qui est marrant, c'est du coup, après Singapour, donc en retournant à Java, donc en Indonésie, j'ai retrouvé ce sentiment d'intérêt, de curiosité pour les touristes, parce que Java, c'est pas très touristique. Et en fait, dès que j'ai pris le bateau pour aller à Bali, alors là, exactement la même chose, plus d'intérêt, plus trop de rapports humains intéressants. Vraiment, ouais, en fait, ça dépend des zones, quoi.
Ouais. C'est quoi que ce voyage finalement il t'en a tiré quoi? Il t'a appris quoi en fait? Parce que j'imagine qu'un voyage comme ça où t'es, il a duré combien de temps au total?
9 mois.
Eh ben 9 mois, c'est tu t'immerges là, t'es dans, enfin je veux dire tu vis dehors, tu vis le truc H24 et avec les hauts et les bas, il t'a apporté quoi ce voyage pour toi?
Ben, moi, il m'a apporté pas mal de choses, hein, c'est sûr. Je dirais que la chose principale, c'est que je reviens de ce voyage avec énormément d'optimisme en la nature humaine. Ça, c'est un truc, j'ai rencontré des gens tellement incroyables partout, tout le temps, que finalement, ça t'impacte assez profondément. Et à un moment, tu dis, ouais, il y a quand même des gens qui font des belles choses. Les gens sont quand même curieux, ouverts et profondément bienveillants, je dirais, tu vois. Ça, c'est vraiment ce que je retiens. Et puis, ça a aussi complètement changé mon image des Chinois, parce que, comme beaucoup de gens, j'avais une image où je me disais que les Chinois étaient, je sais pas, arrogants ou sales, ou plein de clichés.
Ouais.
Et finalement, non, en tout cas, dans les régions où j'étais, c'est des gens incroyables. Et vraiment, ça m'a, je sais pas, j'étais très touché par ces
Ouais.
personnes.
Ah ben je partage 100% ce que tu dis. C'est marrant ce que tu dis en fait sur le ta vision de l'humain. Tu vois, moi j'étais parti avant mon tour du monde, j'avais je pour moi, j'avais la conviction intime que l'homme était fondamentalement mauvais mais qu'il y avait des gens bien, tu vois. Et parce que voilà, tu vis en ville. Que tu vis, t'es baigné dans le capitalisme, donc le rapport très conflictuel de compétition, d'argent au quotidien, tu vois, t'as grandi là-dedans. Et tu passes un an à, comme tu dis, être avec d'autres rapports, d'autres cultures, d'autres humains qui n'ont pas le même quotidien. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, je me suis trompé. L'homme est fondamentalement bon, et il y a des mauvais, et souvent, c'est la société qui le rend mauvais, c'est pas qu'il l'est. Donc
Exactement.
plus t'es isolé, moins il y a de gens, moins il y a de concentration, moins finalement la société a une emprise sur ces gens-là, plus les gens ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire simples, curieux, avenants, gentils, authentiques. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est et d'où l'intérêt de faire aussi du tourisme, du slow travel, du tourisme conscient, où on va essayer d'avoir un impact faible sur ce qu'on sur ce qu'on fait. Donc finalement quand tu vas dans les petits hôtels locaux, tu dépenses local, quand tu es en vélo, ben tu pollues pas beaucoup. Et c'est ça aussi où finalement tu vas en retirer le plus. Mais là, tu nous as parlé du regard extérieur que tu as eu, que ce soit sur les Chinois, que ce soit sur l'humain. Qu'est-ce que toi, profondément, ça t'a apporté? Est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Est-ce que y a des choses que peut-être tu t'es aperçu que ça avait développé ou réduit, je sais pas.
Bah, je pense que j'ai aussi appris qu'en fait, je pouvais vraiment apprécier le quotidien sans trop d'argent, avec des choses simples. Et que ouais, moi, ce que j'aimais, c'est être connecté aux gens, mais que finalement, toutes les considérations matérielles, finalement, n'avaient pas trop d'importance pour moi, à mon âge, à cet instant de ma vie, pour me sentir heureux.
Ça, c'est. T'avais quel âge au moment de ce voyage?
J'avais 26, 27, 27.
Ouais, ça, c'est comme moi. Ça, c'est un bon âge pour, tu sais, pour te changer un peu le mindset, partir longtemps. Je pense à un point de ta vie, t'es un peu avant la trentaine, t'as fait déjà quelques trucs, t'as besoin de te prouver des choses, t'as besoin de voir la vie différemment. Ah, c'est un bon âge. On peut le faire avant, hein, mais c'est pas mal.
Ouais, je sais pas, je pense qu'on est tous différents et qu'on arrive tous à des étapes de nos vies où on a besoin ou envie de faire des choses. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire à 20 ou à 50. C'est ça qui est super aussi, c'est qu'il faut pas se mettre des barrières par rapport à son âge.
Et pourquoi, tu sais, je reviens tout à la base, à l'ADN de ce voyage. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de partir et de faire un break, ou pas un break, mais cette aventure de 9 mois? Parce qu'à la base, t'es photographe. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, sur cette aventure de dire, bah, je sais pas, peut-être que t'avais peut-être des contrats, ou t'avais une vie de photographe professionnel à Bangkok ou en Asie. Qu'est-ce qui t'a dit, vas-y, là, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de prendre ce temps-là pour moi?
En fait, c'est assez marrant parce que du coup, je vivais à Paris et j'étais en coloc avec des super potes.
Ouais.
Et contrairement à des fois des discours qu'on peut entendre, moi, j'adorais ma vie et je kiffais bien, tu vois. Genre vraiment, j'étais bien à Paris. Mais justement, c'est ça où je me suis dit, en fait, je me souviens que j'avais un pote qui est venu chez moi et en fait, il était venu à Crémaillère et il est revenu 2 ans plus tard dans une soirée. Et ce jour-là, il m'a dit, putain, mec, c'est ouf, il n'y a rien qui a changé ici.
Ah, est-ce t'a frappé ça?
Et là, je me suis dit, putain, mais t'as raison, ouais, ça fait 2 ans que je kiffe, mais que j'ai pas forcément l'impression d'évoluer, que je reste dans ma zone de confort finalement. Et là, je me
Chiant.
dis, ouais. Et après, tu vois, je réfléchissais, je disais, tiens, j'ai fait quoi ce mois-ci? Et je me disais, putain, il y a un mois qui est passé, y a que je suis pas trop capable de me souvenir ce que j'avais fait, tu vois. Donc là, je me suis dit, merde, c'est quand même con, je suis encore jeune, j'ai de l'énergie, j'ai envie de voir des nouvelles choses. Donc c'est le confort a aussi cette. Ce danger de t'y complaire et de faire que finalement tu n'avances pas et tu n'évolues pas. Je pense que c'est important dans la vie d'essayer de jamais cesser d'apprendre.
Et justement, c'est à ce moment-là que tu as eu ce clic de se dire, putain, faut que je bouge, faut que je déclenche quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé?
Exactement. Et là, je me suis dit, je suis allé sur Flight Comparator, machin. J'ai regardé, ok, billet pas cher pour la Chine. Tac, j'ai pris. Comme ça, je me suis dit, j'ai pas le choix. Et là, ok, comment on va en Chine?
Ah, c'est bon. Ah, tu t'es dit, et tu t'es, en fait, parce qu'à ce moment-là, t'étais photographe freelance aussi, donc t'avais pas un emploi, t'avais pas d'emploi en CDI ici.
Non, non, j'étais freelance, donc je bossais pour des marques à droite à gauche, je vendais des tirages, etc. Donc,
Donc en fait tu t'es dit bon en fait ça dépend que de moi. Et t'as pas eu peur, tu sais, il y a aussi ce quand t'es photographe, surtout sur Paris, il faut se faire son réseau et que quand on part, bah finalement on perd les contrats et les clients qui ont l'habitude de bosser avec toi, ils bossent plus avec toi. T'as pas eu peur de perdre ton carnet d'adresse, un peu, tu sais, comme les freelances?
moi, en fait, je me suis vraiment dit que ce que ça pouvait m'apporter avait plus de valeur que ce que ça pouvait me coûter, sachant que
Ah,
c'est
c'est
toujours un choix
beau.
de calcul. C'est sûr.
Et alors du coup, est-ce que ça t'a rapporté plus? C'est passé
Ah
quoi après professionnellement?
oui. Mais alors là, sans hésitation, c'est à refaire, je referais 10 fois.
Ah
Genre,
ouais.
ah ouais, c'est sûr. Et puis en fait, je me suis aussi dit, en gros, si j'ai un gros client pour une grosse pub, parce que je fais aussi de la réelle vidéo,
Ouais.
bah en fait, je lui dis, ok, je rentre en France, tu vois, y a pas de souci.
Ouais, tu factures et terminé quoi.
Ouais, ou même pas, tu vois, tu mets ça dans le budget, y a pas de souci. Donc en fait, j'avais cette flexibilité de me dire, j'arrête le voyage quand je veux. Et en fait, quand je suis parti, je me suis pas dit, je pars pour 9 mois. Hein. Je me suis dit, je pars, on va voir, peut-être 3 semaines, un mois. J'ai un collègue, mon collègue qui m'a dit, je pense que tu tiendras pas plus de 3 semaines.
Oh le bâtard!
Ouais,
Gros
j'ai dit
soutien
la
en
même chose.
coloc. On garde ta chambre, de toute
Ouais.
façon, t'es de retour dans 3 semaines, c'est ça?
Ouais, un peu ça, ouais, mais bon. Pas malveillant, mais
Attends, mais ça veut dire que quand t'es parti, t'avais pas rendu ta chambre?
Non mais putain, alors ça c'est une histoire, est-ce que tu veux qu'on parle de ça?
Ah ben
C'est
j'ai... moi
longue
j'aimerais
histoire.
bien. Moi j'aimerais bien.
Ok. Alors en gros, la maison dans laquelle je vivais, c'était une maison un peu en travaux que le propriétaire m'a filé gratuitement.
Dans Paname.
À La Garenne-Colombes, c'est banlieue proche.
Ok.
Et en gros, j'avais mis une annonce sur Facebook pour trouver un appart parce que j'étais en galère comme tous les freelances. Et en gros, c'est un gars qui kiffait mes photos, je crois qu'il m'avait découvert avec le Burning Man justement.
Ouais.
Et quand il a vu l'annonce, il m'a dit... Écoute, j'ai des clés, vas-y, passe, je te montre.
Ah ouais. Et alors t'es arrivé?
J'arrive, alors c'est un vieux monsieur un peu bizarre pour être franc, donc il me fait la visite et tout, et à la fin il me fait, bah voilà, tiens, c'est les clés, c'est pour toi. Si tu veux, je te la prête, quoi.
Mais attends, mais c'était en travaux, c'est-à-dire il y avait quoi? Il y avait que des parpaings.
Je pourrais te montrer des photos, mais en gros, ouais, il y a tout qui fonctionnait, il y avait chauffage, après on a foutu Internet. Mais effectivement, les murs n'étaient pas finis, tu vois, il y avait un peu de poussière à droite à gauche. C'était quand même une maison que tu pouvais pas louer, quoi.
Ok. Et du coup, t'as quand même créé une coloc à partir de là. Hé hey, les gars,
Alors,
j'ai une maison gratos, venez on fait un squat.
c'est un peu ça, c'était un squat légal dans le sens où on avait l'accord
Bien
du
sûr.
propriétaire.
Bien sûr.
Mais il y avait de ça, en fait, j'ai invité mes potes, qui est un peu comme. Souvent, c'est des artistes ou des gens un peu dans le même vibe que moi. Et on s'est dit, vas-y, on va faire une grosse coloc et on va vivre ensemble
On va créer un
et
truc
voilà.
cool.
Et c'est aussi pour ça que je suis parti, parce qu'en fait, en laissant ma chambre, déjà, j'ai permis à quelqu'un de la prendre, et parce que je me suis dit, ben, tu vois, j'ai pas le truc de payer 600 balles par mois pour
Bien
une chambre
sûr.
inoccupée, quoi.
Bien sûr. Et du coup, t'as dit que ça t'avait beaucoup apporté professionnellement après ce voyage. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Peut-être, je sais pas, justement, une créativité, des idées, des concepts que t'as eu, des clients qui ont vu ton travail ou qui t'ont vu voyager, je sais pas.
En fait, après avoir fait Burning Man, et je suis trop content d'avoir fait. Il s'est passé un truc vraiment fou dans ma vie, c'est que j'ai un peu obtenu plein de choses que je rêvais en photographie.
Comme
C'est-à-dire que j'ai
quoi?
fait des grosses expos, j'ai bossé
Ok.
avec des grosses marques, j'étais ambassadeur chez Sony.
Waouh.
Vraiment des trucs lourds, j'ai vendu des tirages partout pour des magazines. Donc c'est vraiment, moi j'ai été satisfait dans ma recherche de photographie
Ouais.
et j'étais trop content que ça connecte avec plein de gens. Donc
Ouais.
c'était super. Mais au fait, au bout d'un moment, j'en avais marre parce que j'étais devenu le mec qui avait fait des photos Burning Man.
Ouais, je vois.
Tu vois, et je suis trop heureux de ce que j'ai fait, mais il y a un moment, en fait, j'avais envie de passer à autre chose.
Bien sûr.
Et là, j'étais vraiment en mode, en fait, je voulais plus parler de ça, tu vois, j'en avais marre qu'on me contacte pour ça, faire des interviews pour ça. et j'avais envie de raconter d'autres choses et de moi d'expérimenter d'autres choses. Et en fait, j'ai commencé à faire de la vidéo et finalement, toute cette démarche m'a appris ce qui est du storytelling et ce qui arrive à ce que je fais aujourd'hui sur TikTok ou sur Instagram, qui est raconter des histoires.
Et justement, ce côté, ce qui est intéressant, c'est que t'es parti de la photo qui t'a fait un peu basculer ta vie d'artiste et de freelance, qui t'a fait obtenir tout simplement un peu le rêve que t'avais en tête, tu vois, à travers ce shooting que t'as vécu là-bas, à travers cette expérience que t'as retranscrit en photo. Et finalement, aujourd'hui, tu dis que t'as gagné, parce que tu sais, quand je te dis, donc là, les gens, ils te disent, attends, le mec, il shoot pour des grandes marques, il a tout ce qu'il veut, en plus, il est renommé, machin, et il dit qu'en se barrant et en étant sur TikTok, il a gagné, je comprends pas. Et tu vois, il faut que t'expliques aux gens.
Ouais, ben en fait, moi, ma démarche, ça a toujours plutôt essayé de faire des choses qui me plaisent, où je suis sincère dans mon propos, et où j'essaye de créer des choses et peut-être un peu d'innover. En fait, mon but, ça n'a jamais été d'être un photographe reconnu. J'ai aimé la photo parce qu'à une période de ma vie, c'était un support qui arrivait à, qui me permettait d'exprimer ce que je ressentais et où je trouvais une. En fait, c'était un outil pour moi, c'était rien d'autre qu'un outil. Et en fait, au moment où j'avais plus envie de m'exprimer à travers cet outil, j'étais dans un truc un peu frustrant où les gens ils venaient me voir pour une mauvaise raison. Du coup, j'étais pas satisfait de ce que je faisais, eux ils n'étaient pas satisfaits. Et en fait, je m'étais créé une image qui n'était plus moi en fait.
Intéressant.
Et je me sentais pas mal en décalage entre moi, ce que j'avais envie de faire et ce que les gens attendaient de moi.
Et t'avais envie de faire quoi? Et les gens attendaient quoi?
Ça aussi c'est compliqué. Des fois tu sais pas trop ce que tu veux faire. Moi il y a des époques de ma vie où j'étais paumé, tu vois. Et, ouais. Et c'est compliqué quand t'as pas forcément, enfin entre guillemets, réussi dans un domaine et où tu dis aux gens en fait j'ai envie de faire d'autres choses. Et moi à l'époque je voulais faire de la cuisine, donc je suis allé faire de la plonge dans des restaurants. Ouais, parce que je voulais apprendre, tu vois.
Énorme.
Et j'allais faire de la plonge et j'étais pas payé. Et les gens ils avaient trop de mal à comprendre. Qu'est-ce que tu fous, toi qui as fait des expos, toi qui as vendu des tirages à travers le monde, qu'est-ce que tu vas foutre dans un resto? Ouais, et vraiment, j'étais trop heureux parce qu'en fait, j'apprenais, je découvrais des nouvelles choses et c'est important. Et encore une fois, moi, j'ai plus besoin que ça que de confort ou d'argent. Donc finalement.
C'est quoi qui drive ta vie, si tu le résumes en une phrase?
Moi, ce que j'aime, c'est. Je dirais, c'est vraiment les humains, c'est mes connexions humaines. J'aime trop rencontrer des gens et me sentir connecté avec des gens, donc c'est vraiment les gens qui ont de l'importance dans ma vie.
Putain, c'est bon ça. Est-ce que justement, en parlant d'humains, il y a des rencontres qui t'ont marqué, dont tu peux nous parler de ces rencontres? Forcément, t'en as rencontré plein, on le sait, surtout que t'as dormi chez des gens, mais je pense que et des fois, c'est pas forcément les rencontres qui durent le plus longtemps, mais il y a des rencontres qui te marquent, pour un mot, pour un geste, pour un truc qui t'ont fait découvrir. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête?
Alors là, je pense à une personne. En gros, après mon tour d'Asie, j'ai fait un petit tour en Australie où j'ai relié Melbourne à Sydney.
Ouais.
Et c'était un vieux monsieur qui avait genre 75 ans, qui vivait tout seul dans une sorte de forêt.
Ok.
Et en fait, ça c'est trop marrant parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais du couchsurfing ou du warm shower, en gros, warm shower c'est couchsurfing pour les cyclistes.
Ouais.
Et en fait, à chaque fois, j'avais, comment dire, des idées préconçues sur les gens. À partir de leurs photos, à partir de ce qu'ils écrivaient dans leurs textes, tu vois, je me faisais une image mentale des personnes.
Intéressant.
Et du coup, je me suis dit, ah, ça va être un mec peut-être un peu creepy, un peu bizarre, bon, marrant, mais un peu chelou, tu vois.
Ouais.
Et en fait, je suis arrivé dans sa maison, et sa maison était hyper chelou, parce qu'en fait, c'est un sculpteur, et en gros, il faisait des trucs sur des poupées, donc ça faisait vraiment film d'horreur de ouf, tu vois.
Tu aimes ma petite réplique de Chucky, la poupée qui tue? Je l'ai fait pour la déconne un dimanche après-midi.
Et puis, tu vois, c'était un jour où il faisait hyper gris, donc forcément, t'as une ambiance, tout ça, j'arrive, je fais ok, chelou, tu vois. Et en fait, je tombe sur un vieux monsieur qui est hyper gentil, hyper épanoui, qui est investi dans plein d'assos. Et en fait, il n'est pas tout seul parce qu'il passe son temps à former des jeunes sur l'agriculture, il passe son temps à être en connexion, à faire des projets artistiques. Et c'est marrant parce que je suis passé de vieux monsieur qui vit tout seul, en fait, à mec hyper épanoui, hyper bien dans sa peau, très actif. Et ça a été aussi un beau modèle d'une personne que je pouvais devenir dans le futur, notamment par rapport au fait d'avoir des enfants, où je me suis dit, ouais, ce mec, il a pas d'enfants. Et je me dis, parce que moi, j'avais pas mal cette vision de peut-être faut faire des enfants, ou en tout cas, faut s'investir dans ce genre de choses pour atteindre un niveau de bonheur ou en tout cas de tranquillité dans le futur. Et en fait, ce mec, il a vraiment remis en cause plein de choses sur l'image que je me faisais de qui je voudrais être à son âge. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr. Et en fait, il t'a donné un nouvel exemple d'un truc vachement inspirant qui potentiellement tu dis putain mais en fait c'est ça que j'aimerais être en fait. Et c'est,
ouais, c'est ça.
Et surtout que j'imagine que le décalage a dû être encore plus violent, ou en tout cas la claque a été émotionnelle, a dû être plus violente parce qu'à la base il partait de encore plus bas que qu'un truc qui pouvait être inspirant quoi.
Exactement. Exactement. Et ça m'a aussi appris à pas trop. Au maximum, j'essaye de pas juger les gens et pas d'avoir d'idées préconçues. Mais c'est dur parce que
bien
au
sûr.
Quotidien, ton cerveau, en fait, il se fait des images.
Ah, il se projette.
Les choses et...
Il se projette.
Ah, de fou, hein.
Est-ce que t'as d'autres personnes comme ça qui t'ont marqué?
En fait, c'est compliqué parce que je pense qu'il y en a plein. Mais.
Bien sûr.
Une fois, il y avait un prêtre. C'était marrant. J'étais. Je pense à ça parce que c'était aussi en Australie.
Alors, tu peux la raconter si t'étais pas petit. Sinon, ça va être compliqué.
Mais justement, c'est par rapport à ça parce que moi j'ai une image assez négative, je dirais, de la religion
okay.
Généralement parce que je pense que ça apporte pas mal de choses, c'est source de beaucoup de conflits.
Ouais.
Et typiquement, ce mec en fait, c'était vraiment un mec qui m'a fait changer mon regard de, vis-à-vis de ça parce que c'était un mec hyper cool, hyper ouvert et qui était trop sympa et qui m'a invité. Et on a vraiment passé un bon moment.
Ah, et en fait, c'est des mecs qui à chaque fois en fait, c'est intéressant en fait, les mecs qui t'ont le plus marqué. C'est des mecs finalement sur lesquels t'avais le plus d'a priori qui encore
exactement.
Une fois t'ont brisé ça, en fait envoler ça en éclats pour reconstruire quelque chose qui était en fait totalement à l'opposé de des stéréotypes qu'on se construit avec notre quotidien de mangeurs de médias et d'infos à la con. Et que quand tu es sur place dans le dur avec les gens, on dit pas que tout le monde est gentil non plus, mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est se construire quelque chose avec de l'expérience et non pas des on dit à la télé qui se focalise souvent sur des faits minoritaires. J'aime bien ça. Et aujourd'hui, tu vois, pour revenir sur ton côté créatif, et j'aime bien cette aventure TikTok, parce qu'en plus, ça, c'est vraiment putain, le réseau social qui devient absorbant et à la fois marrant et à la fois et les mecs te sucent le cerveau tellement ils sont forts dans l'algorithme. Tu vois, tu veux y passer 2 minutes, il reste 2 heures. Qu'est-ce qui en fait, parce que évidemment, tu partages des histoires de voyage, quand tu crées ces vidéos-là, enfin, d'histoires de voyage, des histoires que tu vis au quotidien, parce que tu en as fait à Paris, qu'on cartonnait aussi. C'est quoi que tu as envie de transmettre, en fait?
En fait, moi, j'ai commencé TikTok parce que j'avais ce truc où j'avais plein de rush du voyage en Chine.
Ouais.
Et cette frustration de me dire, putain, j'ai plein de rush, j'ai trop d'histoires à raconter et je sais pas comment le faire. Et au début, j'avais pensé faire une vidéo YouTube, mais en même temps, tu vois, c'était format vertical. Parce qu'en gros, j'avais fait des stories sur Insta et du coup, j'avais tout ce format. Et je voulais pas faire une vidéo longue où je raconte ma life, tu vois. Je voulais faire du format court, impactant. Et quand j'ai vu TikTok arriver, je me suis dit, putain, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse du format court où je raconte des petites anecdotes qui vont plonger les gens dans ce que j'ai pu vivre. En plus, avec les images, je trouve que ça marche trop bien. Et du coup, en fait, j'ai fait une vidéo, elle a fait genre 5 millions de vues, un truc de fou.
C'était ta première.
C'est
là où TikTok, ils sont très forts, les mecs. Parce que quand tu regardes, bon, la tienne a clairement explosé le game. Mais la plupart des gens qui postent leur premier TikTok, qui est à peu près fait pas non plus avec les genoux, ils ont des très gros scores, ce qui fait que ça crée, j'ai remarqué, ça c'est juste une réflexion que je me suis faite, ça fait un peu comme les gagnants du loto. Les gagnants du loto, souvent, ils continuent de jouer parce qu'ils veulent retrouver, ou les gagnants qui ont gagné au casino, ils veulent retrouver la sensation de la gagne. Et il y en a plein, en fait, qui, ils se font avoir pas de TikTok, enfin pas avoir, mais ils tombent dans le truc, genre, putain, j'ai fait tout ça. Et ils continuent de produire, du coup, ça crée des utilisateurs actifs sur TikTok parce qu'ils veulent retrouver ce moment où ils ont fait plein de vues, qui les a fait kiffer. Sauf que toi,
ouais.
Toi, t'es pas tombé dans Monsieur Tout le Monde. T'as fait 5 millions de vues. Donc, je crois qu'en une nuit, t'as fait 1 million. T'as pris 100 000 en une nuit d'abonnés. Terminé bonsoir. Donc, vraiment terminé bonsoir. Et du coup, t'as continué. Sauf que vu que t'as un style particulier, les gens, ils ont continué à te suivre.
Alors, après, pour être franc, moi, j'ai vécu ce que beaucoup de gens ont vécu. C'est au début une mise en avant parce que TikTok veut que tu restes et que tu crées.
Ouais.
Et je vais pas te mentir, c'est stimulant parce que quand tu crées, t'es content d'avoir des gens qui t'entendent et qui réagissent. Après, comme beaucoup de créateurs, en fait, ça a rebaissé d'un coup. Tu vois, ça fait un gros down.
Ouais.
Mais moi, c'était pas très grave parce que j'avais encore plein d'histoires à raconter. Et franchement, même s'il y avait 1000 personnes qui voyaient, moi, ces histoires, j'avais trop envie de les partager. Et tu vois, en plus, je les ai en mémoire encore bien. Donc, j'avais envie de les écrire. Tu vois,
aussi.
Exactement.
Tu vois, et je pense que tu mets le doigt sur la quintessence de la création, en fait. C'est tu crées parce que ça te fait kiffer. Et que, en fait, t'es tellement content et bon dans le fait de créer, parce qu'à force de le faire et de kiffer, souvent tu deviens bon. C'est un peu ça, hein, quand tu fais quelque chose avec bonheur, tu deviens bon parce que tu comptes pas les heures et que de toute façon tu kiffes. Et c'est en devenant dans cet état-là que tu attires les gens. Et qu'au final, en fait, même si tu t'en fous des gens, tu en auras plein qui vont te suivre parce que en fait, tu étais dans ton tunnel de création, de kiff et de partage. Et comme tu dis, il y a 1000, je suis content, il y a 1 million, bon, je prends aussi, tu vois. Et tant mieux, ça fait encore plus plaisir. Et c'est pour ça, ouais. Allez jeter un œil à ces vidéos. C'est quoi ton petit ID TikTok pour ceux qui
Alors
nous écoutent?
C'est Vito, V-I-T-O, point, vidéo.
Vito, vidéo. Ça, c'est
exactement.
Pas mal. Ça se retient facilement.
Ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que je crois très fort.
Ah, bah, je dis plein de trucs d'intéressants, attention, moi. Excuse-moi, vas-y.
T'inquiète. Non, mais en vrai, je crois très fort à la nécessité du plaisir dans le processus de création, pas dans le résultat.
Je pense que les gens, tu sais, ils se, pour faire un peu de philosophie, mais je trouve que c'est un point super important. On est dans une société en fait qui valorise énormément le résultat. Tu sais, le gagner un trophée, un titre, avoir une voiture, une maison, gagner 1 million parce que t'es entrepreneur, c'est un truc de malade. Peu importe en fait. Et le problème, c'est que t'es tellement dans la valorisation du but que les gens en fait sont prêts entre guillemets à souffrir des années pour pouvoir avoir ce résultat qui peut-être n'arrivera jamais. Et même s'il arrive, tu te retrouves quand même comme un con à dire que t'as niqué, je sais pas, 1 an ou 2 ans de ta life pour 1 minute de bonheur, 1 journée, 1 mois, parce que final, ce rush de kiff d'obtention d'un résultat, il est très éphémère. Alors que, au contraire, comme tu dis très très bien, quand t'es dans le plaisir de créer et de faire, ben en fait, tous les jours, c'est un grand kiff. Et que même si au final, ton résultat, il a pas le résultat escompté, justement, et bah t'auras un jour de down ou quelques jours de down, mais tout le long t'as pris du plaisir, tu vas dire ah ça va être comme ça, je vais être comme, et tu t'es projeté, et final le ratio temps bonheur est beaucoup plus intéressant de se projeter sur le processus de création. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être construire sa maison, ça peut être je sais pas, retaper une voiture, on s'en fout en fait. Et c'est ça en fait, et tu mets le doigt dessus. C'est pour ça que tu vas tuer le game sur TikTok aussi, parce qu'il faut que, et c'est pas facile parce que de garder cet état d'esprit là quand tu te prends aussi dans l'engrenage de vue, mais et je pense que tu... Attention, allez-y les mecs. Je le vends bien, mais je te jure, il est kiffant. Il fait des petites histoires, ça te fait tête. Ah ok, j'ai kiffé. J'ai ma petite histoire du jour, tu vois. Non, tu vas voir. La petite histoire sur le burger aussi, elle est... je trouve ça trop cool. Enfin, c'est touchant. C'est... Bref,
mais,
j'en dis
mais
pas
mec,
plus.
Ça, c'est... Le burger, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais moi, je suis trop content de cette histoire, quoi.
Bah, dit comme ça va être compliqué de pas en parler. Hein.
J'avoue, le pire mec, tu sais. Genre, ah, ok, on en parle pas.
Oh, j'ai allez, une super ciao. Histoire, je sais pas si tu veux en parler. Bah, non, évidemment.
En fait, ça c'est un burger. C'est une pote qui m'en avait parlé. Et j'y vais. Et,
à Paris, pour la petite histoire, c'est à Paris. Voilà.
Paname, le burger à 2,70€. Pain maison, sauce maison, pâti maison. Les frites elles sont maison. C'est incroyable, tu vois. C'est
truc qui existe pas. Légende urbaine. Ouais, je connais. Enfin, arrête avec ton burger à 2,70€. On sait qu'il n'existe pas. Eh ben si.
Et du coup, moi je suis là-bas. Au début, en fait, je voulais pas y aller parce que je me dis c'est pas cher. Il y a une douille, tu vois. Et du coup, j'y vais, c'est excellent. Et du coup, je dis au chef, vas-y mec, je reviens, tu me racontes ton histoire, je trouve ça trop incroyable. Pourquoi tu fais des burgers si bas? La raison, c'est que le gars, c'est un passionné, il a fait genre un master de philo, il s'est dit, vas-y, je fais des burgers sans business model, tu vois.
Ah ouais, c'est fou.
Et au début, il galérait de ouf, parce qu'effectivement, il n'y avait pas du tout de stratégie commerciale, tu vois. Mais un gars trop bien et son produit trop bon. Et moi, j'étais avec des potes, on s'est dit, mais putain, mais mec, il faut que ton resto fonctionne. Et en fait, de base, moi, j'avais contacté un influenceur qui s'appelle Florian Honner.
Ouais.
Je sais pas si tu connais.
C'est un mec qui est food quand même, non?
Ouais, c'est ça. Et je lui avais dit, mec, fais un vlog sur ce resto parce que ce resto est incroyable. Ce mec mérite d'être connu. Et lui, il m'a dit, je sais pas, j'ai fait beaucoup de burgers et tout. Pas forcément, j'y penserais, mais tu vois, c'était pas son focus. Et c'est là où je me suis dit, parce qu'en fait, moi, sur TikTok, à l'époque, je faisais vraiment que du voyage, tu vois, je n'avais pas commencé à faire de la food. Et je m'étais dit, bah, Nick, en fait, c'est une histoire qui est trop intéressante. Tu vois, quand j'ai lancé la vidéo, je me suis peut-être dit, les gens, ils ne vont pas comprendre, qu'est-ce que je parle de burger d'un coup. Et en fait, pas du tout, les gens, ils ont connecté de fou. Et bien sûr que ça me fait plaisir parce que ma création a été reconnue, mais vraiment, le fait que ce mec ait, tu vois, le succès qu'il mérite enfin, ça me comble de joie, tu vois. Si je peux utiliser mon influence pour aider des gens qui le méritent, bah, je suis le mec le plus comblé du monde.
Et parce que du coup, on n'a pas dit le résultat de ce petit post, hein, tout simplement, qui a fait 3 millions de vues quand même sur TikTok en une semaine, 10 jours.
Moi, allez, moins.
Ah, voilà, bah ok, très bien, au moins.
3 jours, un truc comme ça,
3
ouais.
3 jours. C'est-à-dire que tu imagines, tu as une publicité de 3 millions. Alors, quand on sait la propension, en fait, le pourcentage des Parisiens, ce que les Parisiens représentent sur les réseaux sociaux, c'est certainement 80% de ton audience. En gros, tu as 2 millions de Parisiens qui ont dû faire la queue derrière pour dire putain, on va aller se déglinguer un burger super bon à 2,70€. Et ben mon pote, je pense que là tu peux aller manger à vie gratuitement chez lui. Là, je pense que ça lui posera pas de problème.
Bah tu sais, à ce prix-là, ça va. Le seul problème, mais j'essaie de le motiver, c'est qu'il fait pas encore de burger végé, tu vois.
Aïe,
Je pense que c'est
aïe, aïe,
important.
aïe. Il faut...
Ça va
Et
venir.
c'est... Ah, ça va venir, ça va venir. Il y a des trucs super sympas avec des haricots, des petites, les petites patates douces, il y a des trucs bien, hein, franchement, à faire. Des
Ouais,
petits...
mais en fait, tu vois, c'est tellement un perfectionniste qui me dit, mais j'attends de faire vraiment le steak parfait avant de le mettre à la carte. Mais je vais pousser, tu vois. S'il peut m'offrir quelque chose, je pense que ça sera un beau cadeau, ça.
Si tu nous écoutes, Burger VG, c'est la tendance et c'est tout ce qu'on attend. Non, réduire un peu l'impact écologique aussi. Victor, j'aime bien terminer ce podcast par trois petites questions traditionnelles. Voilà. La première, c'est, écoute, t'es à Paname, justement, t'as mangé ce magnifique burger, toi t'es repu, tes potes ils se regardent, fait bon, on va prendre un petit coup. Ok, ça prend une tournée, ça prend deux, trois tournées, sauf que vous étiez à un bar PMU parce que c'était à côté d'un bar PMU, et ça part en, venez, on prend des jeux à gratter. Chacun prend un jeu à gratter, et toi ton jeu à gratter, il y a 10 000 balles dessus. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec 10 000 balles concernant tous ces projets que tu as en tête de voyage et de création?
Ouais. Ben, en fait, ça peut paraître un peu arrogant, mais je vais m'expliquer après. Je pense que je change rien à ma vie, dans le sens où aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment la vie que j'aspire à avoir. C'est une vie très simple, tu vois. Je gagne vraiment, je vis dans une petite chambre et tout. Je fais mes courses à Aldi, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas de recherche financière. J'ai pas envie ou besoin d'avoir plus d'argent. Donc, je pense que j'essaie d'enfiler un peu à des potes, j'essaie de faire un truc utile avec, peut-être d'investir dans un projet créatif. Et aussi, c'est ce que je dis tout le temps, ce que changerait ma vie si je gagne de l'argent, c'est que j'achèterais des produits bio à Naturalia, tu sais, les tomates à
Ah
10 euros le
voilà!
kilo.
En fait, ces 10 000 balles, ça sera tes 3 années de course ou un truc comme ça.
Ça
Bio.
équivaut à, exactement, ça équivaut à des falafels au Biocoop.
C'est
Mais
ça.
en vrai, non, je changerais pas grand-chose parce que c'est pas un objectif, l'argent, et j'ai mis un peu d'argent de côté, donc j'ai quand même cette liberté, tu vois. Pour moi,
Bien
l'argent, ça me
sûr.
permet ça. Ça me permet d'être libre. Et à
Génial.
partir de ça, j'ai pas envie ni besoin de dépenser pour quoi que ce soit. Donc,
J'en mets. Magnifique réponse. Je pense qu'il y en a plein. Il reste. Si tu es en train de faire ta vaisselle, à mon avis, tu as dû t'arrêter de gratter ta poêle. Là, parce que ça a dû te toucher quand même. Avant-dernière question. Si je te file les clés de la DeLorean pour aller revivre un moment de ce voyage à vélo, un seul, c'est pas forcément le plus fou ou le meilleur, mais un moment, ce serait lequel?
Je pense que ça serait un jour en Chine, dans la montagne, où tu vois, il y a un truc avec l'effort, la fatigue, le dépaysement, où tu te sens vraiment, j'aime bien dire un peu au-dessus des nuages, parce que littéralement, t'es très haut, et je sais pas, tu te sens connecté avec la nature d'une manière qui est assez difficilement explicable avec des mots. Donc, j'ai pas m'y essayer parce que je pense que j'ai pas forcément les mots pour raconter ça, mais vraiment un sentiment incroyable qui m'apaise et qui m'a marqué.
Magnifique. Dernière question. Si tu devais résumer ce trip en une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ce serait quoi?
Franchement, juste kiff.
Ah bah, c'est même pas une phrase, c'est un mot. Bam, kiff. Écoute.
Ouais, y a rien. Je pense que c'est, en fait, c'est quand même un truc à vivre. C'est chouette. Je pense que si, en tout cas, si les gens se demandent est-ce que ça vaut le coup de voyager, moi, je suis jamais rentré en me disant ouais, bof, tu vois. C'est
Ouais,
toujours un truc à
je sais
prendre.
pas si je le referai.
Ouais. Donc, ouais, kiff, ça, c'est un bon résumé.
Parfait. Écoute, Victor, je te remercie 1 000 fois d'avoir accepté cette invitation, 1 000 fois pour toutes ces belles anecdotes, ces beaux messages, ces belles énergies que tu as transmises durant ce podcast. Et il était vraiment magnifique. Internaute, encore une fois, avant de nous quitter, ce qui nous fait toujours plaisir, c'est les petites dédicaces en story. N'hésite pas à nous taguer. J'aime bien toujours voir dans quelles conditions sont vus le podcast. Hein. Peut-être en train justement de faire la vaisselle, le footing ou sur un vélo. Et ça, on aime bien. Il y en a pas mal aussi. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur l'Insta ou sur le TikTok de Victor. Évidemment, comme d'hab, les liens sont dans la description du podcast si tu veux pas te faire chier à chercher. C'est aussi simple que ça. Et moi, Victor, bah, je te dis juste que bah, je vais continuer à suivre ton TikTok et je suis impatient de voir la prochaine histoire, tout simplement.
Bah merci beaucoup mec, ça fait très plaisir et puis pareil hein, je vais suivre ton taf parce que c'est trop cool.
Merci. Ciao Victor. Bisous.
Salut!